Oui, bonjour. Bienvenue dans ce colloque donc organisé par la BPI dans le cadre de l'exposition Éditeurs, les lois du métier qui se déroule actuellement à la BPI. Et je vais donc laisser la parole tout de suite à André Derval qui a la double casquette, la triple casquette de coproducteur de l'exposition puisqu'il représente ici l'IMEC. Entre autres, qu'il est donc co-commissaire de l'exposition et animateur de cette table ronde sur donc les affaires, les expériences d'éditeurs, mais aussi d'auteurs, puisqu'il y a un auteur et avocat. Je vous laisse la parole, André.
Bonjour et bienvenue à la table ronde de cet après-midi. Donc nous avons choisi pour titre « Affaires d'éditeurs ». Et nous verrons de quelles affaires il s'agit. Nous accueillons pour cette discussion John Calder, qui a exercé la profession d'éditeur de 1949 à 2009, et dont l'impressionnant catalogue a eu maille à partir avec la justice en plusieurs occasions, notamment Kane's Book d'Alexander Trocky, Last Exit to Brooklyn de Selby, et plus récemment, No Shining Armor, qui a eu 24 procès, je crois. Paul Otchakowski-Lawrence, des éditions Paul, sans aucun doute la plus importante maison d'édition de création littéraire. Laurence Vialet, à ma gauche, éditrice, dont la production n'a pas fait l'objet de quoi que ce soit, et qui nous accompagnera dans nos entretiens avec le regard de la professionnelle de l'édition. Enfin, Emmanuel Pierra, Emmanuel Perra, j'allais dire qu'on ne présente plus, mais que je présenterai quand même un peu plus avant tout à l'heure, et qui, entre autres choses, nous parlera d'un de ses derniers ouvrages, paru en 2010, « 100 livres censurés ». Emmanuel nous quittera avant la fin de ce débat, probablement pour des questions d'agenda très serrées. Donc je le remercie doublement d'être ici. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je voudrais rappeler quelques termes du débat. Terme du débat dont j'ai déjà eu l'occasion de donner quelques éléments vendredi dernier, auquel nous vous avons convié, et ce colloque en deux journées, l'une ici, l'autre vendredi dernier à l'abbaye d'Ardennes, siège de l'IMEC près de Caen, a été conçu en prolongement d'une exposition portant le même titre, Éditeur, les lois du métier. Dans notre esprit, c'est-à-dire dans celui des différents producteurs de cette exposition, la Bibliothèque publique d'information, la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, Hervé Séry de Paris 8, en tant que conseiller scientifique, et l'IMEC, il ne s'agissait pas d'agiter une énième fois le chiffon spectaculaire ou émotionnel de la censure à l'œuvre, mais de retracer le cours sinueux du travail éditorial face à la loi qui, en France, depuis la Libération, a encadré la liberté d'expression à travers une série de dispositions, de commissions et d'arrêtés. Et le point de vue que nous avons essayé d'adopter pour cette reconstitution, c'est tout simplement celui de l'éditeur. En quelles occasions, connaissant le dispositif juridique qui est censé le contraindre, décide-t-il de déroger, de flirter avec la législation, de prendre des risques parfois considérables allant jusqu'à menacer l'existence de son activité. Nous avons donc répertorié différents domaines sur lesquels cette problématique opérait. Nous reviendrons peut-être ici sur les publications liées à la religion, mais je rappellerai quand même que le titre le plus censuré, sauf erreur, c'est la Bible dans ses versions non conformes au canon. Les questions de diffamation, d'atteinte au droit à la vie privée, au droit à l'image, au nom, conduisent à des aménagements des publications élaborées lors d'un processus de censure interne, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de censure interne à la maison d'édition comme une sorte de commission de contrôle préalable. Les publications liées à la sexualité, le respect des bonnes mœurs, on a pu observer, et on l'observera dans cette exposition, combien les choses ont pu évoluer durant les 20 dernières années. Enfin, les affaires politique ou relative au secret industriel, fruit d'enquête et d'investigation, sont particulièrement l'objet de prises de décisions importantes de la part des éditeurs, tant les risques encourus sont importants, les demandes en dommages et intérêts étant dans ce cas particulièrement élevées. Et tout à fait, enfin, moins exposés au public, nous avons également traité la question en interne, si je peux dire, à travers les contentieux juridiques et les procès entre professionnels de l'édition. Ce point pourra être évoqué par nos invités cet après-midi. Le droit et les avocats, le jeu sur l'interprétation des contrats, les menaces qui se convertissent en négociations émaillent aussi l'actualité de l'édition entre logique économique et création intellectuelle. Voilà en quelques mots le parcours que nous avons suivi pour cette exposition. Nous avons exploré vendredi dernier quelques aspects contemporains représentatifs d'une certaine évolution du droit dans l'édition, entre une judiciarisation croissante qui semble se faire effectivement de plus en plus pressante et l'attraction des droits de diffusion liés à l'hypertexte et à l'environnement numérique, les Creative Commons. Pour cette table ronde, nous avons choisi de demander à des acteurs importants de l'édition de revenir sur ce qu'ils considèrent comme des affaires emblématiques, des moments forts où fut mis en cause la liberté d'expression. Et je vais donner tout de suite la parole à John Calder, au catalogue de 2500 titres environ à son enseigne, qui totalise 21 prix Nobel de littérature. Trois prix Nobel de la paix, qui est l'éditeur, entre autres, de Samuel Beckett, mais aussi d'Henry Miller, d'Alain Roque-Grillet et de tant d'autres, dont Marguerite Duras, si chère à Emmanuel Perrin. John Calder va nous apporter un éclairage complémentaire à ce que nous avons présenté dans l'exposition, dont il a connu tous les principaux protagonistes. Maurice Giraudias, Jérôme Lindon, François Maspero, Éric Losfeld, Claude Chou et bien sûr Jean-Jacques Pauvert. Complémentaire aussi pour son expérience du domaine de langue anglaise, qui n'est pas traité dans l'exposition. Je crois que les premières fois où tu as été en délicatesse avec la loi remontent à l'époque où tu publiais des écrits anti-McCarthyistes, une cinquantaine de titres au total entre 1950 et 1957. John, c'est à toi.
Merci, bonsoir. Alors, mes expériences avec la censure sont également sur la censure morale et sur la censure politique, plutôt avec la deuxième. Je vais raconter d'abord un peu mes expériences, parce que parfois, mes problèmes venaient de mes efforts d'exploiter la réputation des auteurs qui étaient difficiles à vendre, comme le nouveau roman français, par exemple, et des auteurs comme Beckett, qui allaient... Quand j'ai commencé à publier Beckett en Angleterre, on l'appelait la folie de Calder. Et c'est même peu parce que ces romans français ont été refusés par d'autres auteurs britanniques que j'ai eu la chance de la publier en Angleterre. Je parle des romans comme Malloy, Malhonneur, Les Lovables. Je vais commencer par parler un peu de l'expérience que j'ai eue à la fin des années 50 en Grande-Bretagne quand j'étais en train de publier des nouveaux romans de Rob Guillet, de Dashley Sarraute, de Robert Perget, et bien d'autres. Puis en 59, j'ai fait une grande tournée des universités en Grande-Bretagne avec Rob Guillet, avec Duras, avec Sarraute, qui ont parlé entre eux, en public, surtout à des universités en Grande-Bretagne. C'est une tournée qui était assez réussie, parce que ces noms n'étaient pas du tout connus en Angleterre. Mais il y avait une expérience dans une ville industrielle qui s'appelle Coventry, qui était presque détruite pendant la guerre, où dès le moment, on m'a demandé de présenter ces trois auteurs qui ont été exclus de l'université à Birmingham. Alors, c'était dans l'hôtel de ville d'une cette petite ville industrielle. Un jeune public, il n'y avait aucune université dans la ville à cette époque, où il y avait, j'ai eu des amis là-bas, qui ont pris l'hôtel de ville et qui roulaient ici en Europe avec environ 800 jeunes personnes de 16 ans à 22 ans. Et pour la première fois, ils ont entendu parler deux en français, une en anglais, avec une traduction immédiate, de les idées du nouveau roman. Auteurs inconnus, mais ces intellectuels qui ont quand même fait un grand effort pour expliquer à ces jeunes leurs idées, qui n'étaient pas du tout les mêmes. C'était un débat intéressant qui avait duré, imaginez-vous, 4 heures. Et puis, tous les livres que j'ai dans la salle ont été vendus. Et puis, ils ont beaucoup de difficultés de partir parce que les jeunes, presque tous d'une classe ouvrière, ont été si excités par les idées qu'ils ont entendues pour la première fois qu'ils ne voulaient pas les laisser partir. Ça m'a donné l'idée de parler avec le directeur du Festival d'Edinburgh, qui est la plus importante festival de la Grande-Bretagne, le Comte Harwood, qui est une amie à moi, pour expliquer ce qui est arrivé à Coventry, pour dire pourquoi pas faire une grande conférence de littérature avec des écrivains pendant le Festival d'Edinburgh. Après 2 ans, il a accepté l'idée. On a pris pendant une semaine la plus grande salle d'Edinburgh, avec place pour 2500 personnes, qui était remplie. Et j'ai eu une cinquantaine d'auteurs, y compris des auteurs défendus en Angleterre, comme Henry Miller, que j'ai invité parce que c'était une idée, comme William Burroughs, qui est aussi, n'était pas connu, mais s'il était connu, il devait être défendu aussi. Interdit. Et des auteurs de monde entier qui ont parlé de ce que c'est le roman, ce que c'est le statut. C'était un débat ouvert entre eux. Ils ont parlé de l'amour, de l'homosexualité, de tous les problèmes de la statut, de la censure, tous les problèmes qui touchent les auteurs. Miller qui était inconnu, défendu, mais avait défendu la liberté de parole et de l'auteur à dire ce qu'il voulait dire. Pourquoi est-ce qu'un écrivain ne peut pas écrire comme il veut l'écrire? Pourquoi est-ce qu'on le défend? C'est un homme qui ne fait pas de mal aux autres. C'était un énorme succès. Ça a eu énormément de publicité, pas uniquement en Grande-Bretagne, mais dans la presse mondiale. Et puis, après, parce que Miller était si bien reçu et applaudi dans la salle, que j'ai vu l'opportunité de le publier, que j'ai fait l'année après. C'était le début, un peu, de la fin de la censure. 2 ans après le procès, très connu, de l'amant de Lady Chatterley, qui avait gagné, qui était la première fois que c'était possible d'avoir des témoins contre la censure pour un livre. C'était la première fois que les intellectuels ont eu l'opportunité de parler de la qualité de l'écriture, la qualité des bons livres, etc. Et puis, à cause de ce festival très réussi, et avec toute la publicité qu'il a eue, il n'y avait pas eu un procès. Il y avait une grande chance de procès. 10 jours avant l'apparition du livre, parce qu'il a écrit à le procureur général que s'il voulait faire un procès, j'étais prêt à aller dans le cours, mais j'ai donné une liste d'environ une centaine des écrivains très connus qui étaient prêts à plaidoyer pour le livre. 10 jours avant, ils m'ont écrit, ont décidé de rien faire. Je n'ai pas dit ça à la presse. Tous les Les libraires des villes britanniques ont des longues queues pour acheter des livres avant que c'était défendu, parce que c'est un livre célèbre, mais quand même lu uniquement dans l'exemplaire importé clandestinement. Alors, j'avais aussi William Burroughs à cette même conférence. Il a été aussi applaudi pour ses idées d'avant-garde sur ce que peut être le roman dans l'avenir. Et lui aussi, j'ai publié un an après Miller, encore sans problème. Mais j'ai eu un problème quelques années après, en 1966, avec un roman américain, Dernier Appel, Dernier Sorti à Brooklyn, qui était attaqué par un député d'extrême droite, qui m'a fait un procès personnel dans une petite cour à Londres. Et puis après ça, j'ai eu un procès d'État qui coûtait très très cher, qui avait duré 2 ans, que j'ai perdu. Mais pas 2 ans dans le cours, parce que j'ai fait appel et j'ai gagné l'appel. Ça, c'était 2 ans après.
Au Festival d'Édimbourg, Alain Robbe-Grillas était venu faire une conférence sur la censure, justement.
Oui, exactement.
Et Alexander Tchouaki était là aussi.
Oui, oui.
Il y avait beaucoup de polémiques à ce moment-là.
Alors, le festival était un si grand succès que le comte d'Harwood m'a demandé de faire une deuxième l'année prochaine. J'ai fait une conférence, les écrivains du théâtre. Il y avait Eugène Ionesco, Alain Bal, Debillard, Duras, Rob Guy était là aussi, des cinéastes aussi, beaucoup de monde. Mais là, il y avait un scandale. Parce que, d'abord, les discours étaient beaucoup moins importants que l'année avant, ni intéressants. Mais le dernier jour, un jeune écrivain américain avait donné ce qu'on appelle... un événement où il y avait une nue qu'on a vue uniquement pour quelques secondes. Mais il y avait une société morale à Édimbourg qui m'a lancé un procès que finalement j'ai gagné, mais à cause de ça, le maire de Édimbourg a refusé d'avoir d'autres conférences après. Une de mes expériences. Mais bien avant ça, au début des années 50, quand j'étais jeune éditeur, j'ai publié en Angleterre beaucoup des livres américains qui ne pouvaient pas être publiés aux États-Unis à cause de Senator McCarthy, qui avait attaqué d'abord les cinéastes à Hollywood, les metteurs en scène, les acteurs, etc., qui ont perdu le droit de travailler. Après les éditions à New York, alors il y avait beaucoup des auteurs américains assez connus qui ne pouvaient pas trouver un éditeur à cause de McCarthy. Alors j'ai publié peut-être une cinquantaine de ces livres en Angleterre avec beaucoup de succès. À l'époque, je faisais moins de la littérature qu'avant. Et pendant la guerre d'Algérie, parce que je venais souvent en France, c'était à l'époque où j'ai publié plusieurs auteurs français en traduction. Il y avait un samedi matin où j'ai passé chez les éditions de minuit et Jérôme Lindon m'a donné un livre de Henri Alleg qui s'appelle La Question. Et puis j'ai pris le livre, c'était sur la tortue en Algérie, comme Henri Alleg a été torturé par Massu. Et j'ai lu ce livre dans la flore à midi. J'ai téléphoné à Lindon pour dire oui, c'est un livre important, je voulais le faire en Angleterre. Il a dit, tu as un des seuls exemplaires, parce que le livre a été saisi depuis que vous étiez chez moi. Je suis retourné à Londres le jour même, j'ai commencé à traduire le livre. La traduction a été finie à midi lundi, par la poste de midi. il y avait un avant-propos de Sartre qu'il écrivait pour une édition clandestine à Paris, que j'ai traduit dans l'après-midi. Et le vendredi, j'ai eu le livre imprimé. Le samedi matin, j'ai fait relayeur à la main. Et samedi soir, j'ai passé par tous les journaux de Londres pour laisser l'exemplaire de presse. Et il y avait des articles dans les journaux du dimanche et aussi dans le lundi. Pendant ce temps, le livre était défendu en France. Et puis, il y a même des libraires français qui ont acheté l'édition anglaise pour le lire en anglais. Quelques jours après, il y avait le 13 mai, quand De Gaulle est venu au pouvoir. Et j'ai vendu 15 000 exemplaires dans les quelques semaines. Alors, l'année après, Lindon m'a donné un autre livre qui s'appelle « La gangrène ». Sur l'affaire Audin, qui était un autre journaliste en Algérie, qui a été torturé et tué aux prisons. J'ai pu le livre, je l'ai fait traduire, mais j'étais un peu inquiet parce que je savais très bien que les Britanniques faisaient exactement la même chose dans leur colonie que les Français. Un jour, par hasard, j'ai rencontré un député sur un avion de Paris à Londres. Qui m'a parlé d'un officier de prison au Kenya qui avait fait un rapport sur les camps de concentration au Kenya, qui risquait une prison pour tout le monde. Le livre était défendu, le texte était défendu à la publication. Alors j'ai mis les deux ensemble, les textes français et les textes britanniques. J'ai fait un autre livre, La gangrène, qui est sorti à la fin de 59 jusqu'au moment des élections en Britannique. Et puis le temps m'a menacé. Si je publie ce livre, je risque d'aller aux prisons, il y aura certainement un procès d'État contre moi. J'ai décidé de continuer quand même. Et j'ai publié le livre. Une fois que le livre est sorti, c'est trop tard pour faire n'importe quoi. Il y avait des élections tout de suite après. Les conservateurs ont gagné le pouvoir, mais avec une petite majorité. Et puis, à la première réunion des ministres, ils ont parlé de ce livre, des camps de concentration au Kenya, où des centaines ont été tués, 60 000 ont été arrêtés, sans un seul procès contre un seul prisonnier. Ils ont décidé de fermer les camps. Je suis très fier de ça. Et puis, il y avait une énorme presse contre moi, la presse de droite, évidemment. Il y a quelques députés, des membres de Lords, qui ont demandé que ça serait arrêté, mais quand même, ça a passé. Mais aussi, j'ai eu des menaces de mort, etc. Alors, je parle uniquement de cette expérience. J'ai été défendu d'aller en Alger, en Afrique du Sud, pour un livre que j'ai publié. Aussi, des livres sur la corruption, où j'ai beaucoup de procès. Chaque fois que j'ai un livre qui a bien marché, que j'ai fait un peu d'argent, j'ai tout de suite perdu l'argent à cause d'une censure ou d'une attaque, etc. Alors, pendant mes presque 60 ans dans les éditions, il n'y a que 5 ou 6 où j'ai fait un bénéfice. Pour la plupart, j'ai travaillé avec une toute petite équipe, mal payée. Et le plus mal payé de tout, c'était moi, évidemment. Je n'ai pas parlé des premières années 50, mais à la fin des années 50, j'ai commencé à faire de littérature. J'ai fait Beckett, le bon français, beaucoup d'autres livres français aussi, des livres russes, italiens, etc. Bref, j'ai publié environ 6 000 exemplaires. J'ai aussi eu des liaisons avec Lindon, avec Gallimard. J'ai eu un contrat une fois pour Lolita de Vladimir Nabokov, mais il m'a refusé comme si j'étais britannique parce qu'il a dit que j'étais communiste à cause des livres gauchistes que j'avais publiés. Alors finalement, j'étais obligé de le laisser tomber, malheureusement, parce que c'est un livre qui devait me faire d'argent. J'ai eu beaucoup de liaisons avec Maurice Jodiès, qui a fait des livres en anglais à Paris, évidemment la porno, mais aussi des bons auteurs. Il avait publié deux des premiers romans de Beckett dans les années 50. Et puis il a aidé une petite revue, Merlin, fondée par des jeunes écrivains britanniques, américains, d'Afrique du Sud, d'Australie, etc. Bon, je crois que c'est assez pour maintenant.
Merci, mais on te redonnera la parole tout à l'heure. Merci, John. Paul Tchaïkovski, Laurence, vous avez débuté dans l'édition à la fin des années 60 chez Christian Bourgois, puis vous avez travaillé chez Flammarion avant de diriger une collection chez Hachette, où vous avez notamment publié La vie mode d'emploi de Pérec. En 1983, vous fondez votre propre maison d'édition où entre notamment Marguerite Duras et d'autres, vous accueillerez Christian Prigent, Olivier Cadiot, Emmanuel Carrère, Camille Laurence, Marie Darieusec, Atik Raimi, qui obtint le prix Goncourt en 2008. Nous avons évoqué dans l'exposition une affaire vous concernant, celle du texte de Mathieu Lindon, intitulé « Le procès de Jean-Marie Le Pen ». Pouvez-vous nous redonner le contexte de cette affaire et nous dire également ce qu'elle vous inspire maintenant?
Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord dire que John Calder a évoqué Jérôme Lindon, et je voulais simplement rappeler que Jérôme Lindon, pendant la guerre d'Algérie, avait été plastiqué chez lui. Il faut le dire, parce que c'est une autre forme de censure par la violence. Et oui, alors, donc malheureusement, j'aurais tellement aimé avoir autant de procès que vous, mais j'ai eu en effet si vous me permettez de revenir un petit peu en arrière, mon baptême du feu concernant la censure judiciaire, je dirais, c'est le livre de Bernard Noël, Le Château de Seine, en 1973 ou 74. Bernard Noël avait été poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Ce n'est pas moi qui avais publié le livre, c'est Jean-Jacques Pauvert. Ce n'est pas l'édition Pauvert qui était poursuivie, c'est une édition antérieure, sous pseudonyme, le pseudonyme de Urbain d'Orlac, chez Jérôme Martineau. Et c'est au moment où Jean-Jacques Pauvert a publié Le Château de Seine sous le nom de Bernard Noël que les poursuites ont pu se diriger sur la personne de Bernard Noël. Et donc je publiais Bernard Noël comme écrivain et comme poète et comme romancier, mais pas ce livre-là. Et j'avais organisé avec Jean Frémont, on avait organisé la défense de Bernard Noël. Donc c'est un peu mon baptême du feu et la confrontation à ce système. Et Bernard Noël, on avait fait un procès très mondain, avec beaucoup de témoins, avec celle de Jacques Derrida, Claude Gallimard, en passant par Pierre Dumayet, André Chédid, Philippe Solers, enfin bon. Et ce qui avait valu à Bernard Noël d'être très lourdement condamné. C'était le seul. Et puis ensuite, il a été amnistié à l'occasion de l'élection de Giscard d'Estaing. Voilà, donc tout ça pour resituer un petit peu ma première expérience. Ensuite, la deuxième, c'est déjà Mathieu Lindon qui me l'a offerte avec, je refais un petit peu l'historique, avec un livre qui, alors là, ce sont les poursuites administratives. C'est avec le Prince et Léonard d'Ours, un récit assez violemment érotique et violent de Mathieu Lindon, et qui a été poursuivi au titre de la réglementation, ou à cause de la réglementation sur la protection de la jeunesse. On a eu une menace d'interdiction, enfin les fameuses trois interdictions, c'est-à-dire à l'affichage, à la vente, non, à l'affichage, à l'exposition et à la vente aux mineurs. Et puis, comme ces imbéciles ont déclenché ça une semaine avant le Salon du Livre, ou 15 jours avant le Salon du Livre, on a commencé à faire beaucoup d'agitation et à menacer de distribuer des milliers de tracts au Salon du Livre. Et ça s'est résolu comme ça. Enfin, un jour, j'ai eu un coup de téléphone de Monsieur Latournerie, directeur des libertés publiques au ministère de l'Intérieur, qui nous a signifié l'abandon des poursuites. C'était passé. Voilà. Donc on peut aussi obtenir des levées d'interdiction ou de menaces d'interdiction avec une bonne agitation. Et alors, enfin, on en vient au procès de Jean-Marie Le Pen. Alors, Mathieu Lindon, en 98, m'a donné ce livre, Le procès de Jean-Marie Le Pen. Compte tenu de. Alors voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce que raconte ce livre, c'est un fait. Vous vous souvenez de cet assassinat d'un jeune Comorien à Marseille par des colleurs d'affiches du Front National. Et Mathieu Lindon s'est inspiré de ce fait et a imaginé que un avocat de gauche, homosexuel, ça n'est pas indifférent dans le livre, décidait de défendre le criminel, l'assassin. C'est-à-dire un avocat de gauche défendait un assassin de droite et même d'extrême droite. Pour faire, il voulait se servir de cela, pour faire le procès de Jean-Marie Le Pen, d'où le titre. Voilà, ça c'est le contexte du roman. Et ce livre d'ailleurs n'est pas un livre favorable à Le Pen, on l'imagine, mais c'est pas non plus un livre, comment dire, contre Le Pen. Ça n'est pas un livre, qui cherche à faire, à combattre Le Pen. Non, ce livre combat la mauvaise argumentation des opposants de Le Pen, ce qui est assez intéressant. Il se trouve que nous avons été. Alors, on avait montré le livre à notre conseil, Maître Rapaport, qui nous a dit attention, vous allez être attaqué sur tel et tel point. Qu'est-ce que vous décidez? On a dit on y va quand même. Enfin, d'un commun accord avec l'auteur, on y a décidé de publier le livre sans aucune correction. Et de fait, nous avons été attaqués sur tous les points qui avaient été signalés par Maître Rapaport. Nous avons été condamnés en première instance, en appel, en cassation et devant la Cour européenne. Enfin, devant la Cour européenne, nous n'avons pas été condamnés, nous avons perdu notre procès contre la France. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, avec quand même cette chose tout à fait extraordinaire, enfin rare, qui est l'expression d'opinion dissidente à l'intérieur de la Cour européenne, et notamment du président de la Cour européenne, qui vient juste de prendre sa retraite, Costa, je crois. Et donc c'était une petite victoire à l'arraché, une petite victoire finale. Il se trouve que ce qui a été frappant dans ce procès, c'est qu'on a pu voir à quel point les magistrats, en tout cas ceux qui avaient été juge des différents procès ou différentes instances, ne savait pas lire. Moi, c'est ce que j'ai retiré de ce procès, parce que on a commencé par être condamné sur 5 points, à peu près, si je me souviens bien. 6, bravo. Sur 6 points. Et il y en avait au moins 3, je pense, mais je vais être tout de suite corrigé par Emmanuel Pierrat. Il y avait au moins 3 qui étaient des propos tenus par des personnages dans le livre à l'encontre de Jean-Marie Le Pen. Ce qu'il faut signaler, ce qui est extraordinaire, moi je m'attendais à ce qu'on soit condamné sur le fait que, ou qu'on soit poursuivi sur le fait que Mathieu Lindon, dans ce livre, fait tenir des propos à Jean-Marie Le Pen, donc invente des discours que Jean-Marie Le Pen est censé tenir à l'occasion de ce procès. Et on n'a pas du tout été poursuivi pour ça. C'était tellement bien fait, tellement conforme à la réalité de Le Pen, qu'on n'a pas été poursuivi. Mais on a été poursuivi pour des propos de deux sortes que tiennent les personnages à l'encontre de Le Pen, des personnages de fiction, et pour des propos ou pour des éléments de narration. C'est le narrateur qui a été condamné en quelque sorte. Enfin, l'auteur a été condamné parce que les juges ont confondu narrateur et auteur. Voilà, ça c'est une. un fait marquant. Pour moi, ce procès nous a ramené au procureur Pinard, en gros, parce que c'était vraiment le procès de Madame Bovary, quoi.
Oui. C'est un des derniers exemples, effectivement, de condamnation de fiction.
Ouais. Et alors, au prétexte que le narrateur représentait l'auteur. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si Emmanuel a quelque chose.
Sur les affirmations d'André, le fait qu'il n'y ait pas eu de procès depuis ou de condamnation de fiction depuis. Ah, voilà, un des derniers. Non, j'arrêterais de travailler si c'était le dernier.
Voilà,
avec condamnation.
Avec condamnation, oui, il y en a à peu près une dizaine de fictions par an, à peu près, par le même tribunal, par la même chambre de la presse, comment on appelle ça, pudiquement, qui juge donc les éditeurs, les cinéastes, enfin tout ce qui touche aux beaux-arts au sens large. Et qui condamne, oui. Mais c'est une longue tradition hein, de cet endroit, de confondre fiction, documents, etc., etc., et de mettre tout à la même eau, juste pour mémoire, pour avoir assisté au procès. C'est pour ça que j'ai une mémoire très précise des six passages. Mathieu Lindon avait tenu ce propos aussi, qui avait particulièrement, on va dire, irrité le président Montfort, qui présidait, et avait dit « Vous me condamnez pas parce que c'est une fiction et vous me condamnerez parce que c'est la réalité. » Enfin, quelque chose, enfin bref, il avait, en jouant les deux tableaux, donc effectivement, il tendait des verges pour se faire battre à des gens qui lisent rarement les livres qu'ils ont à juger. Pardon pour cette incise.
Voilà, je ne sais pas, j'ai raconté l'histoire.
Très bien, je vous remercie. Nel Perra, dans un autre registre, je vais vous donner la parole puisque le temps file.
Exactement, je vais filer également.
Ouais, exactement. Donc, tu as été amené à défendre un écrivain accusé de propos discriminatoires, Michel Houellebecq, tenu dans le magazine Lire. Est-ce que tu veux revenir sur, cette affaire ?
Bien sûr. Non, ça m'intéresse beaucoup. Juste, pardon, pour préciser, pour rendre hommage quand même à la famille Lindon dans son ensemble, donc le père éditeur, Mathieu écrivain, le grand-père avocat général à la Cour de cassation poursuivant les écrivains quand même. Hein. Moi, ça m'amuse toujours quand même, les dynasties, en quelque sorte, contradictoires. Ça a été le grand avocat général qui poursuivait le grand procureur, en quelque sorte, si vous préférez, contre les écrivains. C'est toujours intéressant. Pour ce qui est de Michel Houellebecq, oui, c'était un procès en 2002, qui s'est tenu en 2002 après la sortie de Plateforme. Mais c'est intéressant parce qu'il est assez révélateur des procès ou de la façon dont on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de procès tellement pour les fictions, mais pour d'autres éléments. En réalité, c'est très clair, le procès visait Plateforme, en tout cas l'intention des poursuivants, c'est-à-dire la Grande Mosquée de Paris, la Grande Mosquée de Lyon, la Fédération nationale des musulmans de France et ma préférée, la Ligue islamique mondiale, dont l'article 1 est l'application de la charia, ainsi qu'associée avec la Ligue des droits de l'homme. C'était très intéressant. En vérité, ce qui les irritait beaucoup, c'était le livre. Et le recteur Boubaker, d'ailleurs, l'a dit à la barre quand il a été interrogé par le président du tribunal. Il a dit « Depuis quand avez-vous décidé de poursuivre cette interview ?» Il dit « Depuis que le livre est sorti. » Donc, ça montre bien la façon périphérique dont la censure moderne éventuellement va s'attaquer ou va prendre, comme le disait Paul, six passages très précis. L'avocat de Le Pen, effectivement, avait découpé six bouts de phrases, mais infimes, quasiment, pour aller chercher querelle à l'ensemble du propos du livre. Donc, de la même façon, on a en permanence des personnages périphériques. Si on publie un document politique, par exemple, aujourd'hui, on est certain d'une immunité pour quelques mois, en gros jusqu'en mai prochain. Vous voyez le calendrier. Je vois mal, par exemple, je sais pas quoi, François Bayrou, Nicolas Sarkozy, j'en sais rien, Mélenchon, attaquer demain matin un document, une fiction, n'importe quoi. Mais en revanche, la bonne de machin, le cousin de, etc., va attaquer pour le compte de et pour deux lignes dans lesquelles, pour lesquelles il figure dans le livre. Pour Michel Houellebecq, c'était un peu ça, parce que le livre était très dérangeant. Il est pré-attentat, donc il sort notamment donc en 2001 et on plaide en 2002. Il sort en 2001, au moment donc en septembre. Donc on a le 11 septembre sur la figure. On a un fond d'islamophobie dont est accusé l'auteur. Et puis en 2002, on aura finalement gain de cause aussi, en partie pour des raisons politiques. Ça n'enlève rien à mes mérites, mais quand même, parce que ça situe, l'action se situe, comme vous le savez, en partie en Asie du Sud-Est et met en scène une action terroriste contre un centre de touristes. Or, on a plaidé quelques jours après l'affaire de Bali, l'attentat de la boîte de nuit de Bali avec les 81 jeunes gens australiens morts. Donc, ce qui nous a, pardonnez-moi, servi. Tragique de dire que 80 morts ont servi à gagner un procès, mais enfin, c'est ainsi. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs choses.
D'abord, là, effectivement, le côté défilé de témoins chic, ça ne marche pas. On est d'accord, moi j'avais en partie les mêmes, en moins bien. Aussi, j'avais Solers, j'avais Josène Savigno, Dominique Noguez, j'avais Arabal, qui était le seul magnifique, parce qu'Arabal venait témoigner de ce que peut être un délit de blasphème. C'est-à-dire de la résurgence en France, mais vous le savez, ne serait-ce que si vous allez au théâtre de la ville en ce moment, par exemple, je ne parle pas des pubs Benetton, on s'en fout un peu, pardonnez-moi. Hein, donc je m'intéresse plus à Charlie Hebdo au théâtre de la ville qu'à la fausse pub de Benetton. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est le délit de blasphème n'existe plus, mais Arabal l'avait vécu sous Franco et avait fait de la prison pour un poème attentatoire à Jésus-Christ. Et s'est retrouvé à l'audience à alpaguer le président du tribunal en disant, au moment de prêter serment comme témoin, il regarde la salle comme ça, puis derrière le tribunal, il y a Marianne. Et il dit, je comprends pas parce que ça me rappelle le mauvais souvenir. Moi, quand j'ai été jugé à Madrid pour atteinte au Christ, il m'a crucifié. Ici, il y a une femme voilée. Donc, il y a eu un blanc et un devoir d'explication de la part du président du tribunal face à un pataphysicien patenté quand même. Donc, c'est le témoin qui a été véritablement efficace. Pour le reste, et d'ailleurs qui a invoqué les témoins inefficaces qu'il avait lui, alors il avait lu Chiquissime, il avait eu Octavio Paz, Camille Rogestella, enfin, que des prix Nobel de littérature, et il avait dit, il manquait Orson Welles qui a été bloqué par les autorités franquistes à l'aéroport. Donc, pas mal quand même, comme ça lui est pas permis d'échapper quand même à la condamnation. Et ce procès était intéressant parce qu'il conjuguait donc à la fois des stratégies périphériques de contournement pour attaquer un écrivain ou son roman, sans l'attaquer au cœur du roman, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur le thème de l'atteinte à la liberté d'expression. On prenait une interview dans Lire, des propos sur l'islam, et à partir de là, donc, on disait « ce sont des propos racistes tenus dans un journal, mais on n'attaque pas le roman ». On s'en prend pas à la littérature, ce qui est une façon de contourner, en quelque sorte. Il y avait aussi cette chose intéressante qui me laisse toujours perplexe aujourd'hui, qui est une sorte de nouveauté depuis quelques deux décennies, qui était la conjugaison donc de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est inscrite au procès le matin même, aux côtés de la Ligue islamique mondiale. Le MORAP et la LICRA m'avaient appelé trois jours avant en me disant « Tu le sens comment le procès ?» Je dis « Vous allez en prendre plein la gueule si vous vous en mêlez. » Il m'avait dit « Bon, ok, d'accord, merci. » J'ai dit « Moi, je suis plutôt quand même de votre côté, donc n'y allez pas, c'est un mauvais procès. Il y a un fou dangereux, un de mes confrères qui représente la Ligue islamique mondiale, et il m'a dit qu'il allait plaider que ce livre serait interdit en Arabie saoudite. » Ce qui est quand même un bon argument pour moi. Donc, si vous voulez vous mettre à côté de lui, pourquoi pas. Et donc, c'est Agnès Tricouard qui me précédait à cette place tout à l'heure, qui a eu l'honneur de défendre la Ligue des droits de l'homme pendant 4 secondes, puisque Dominique Noguez lui a demandé de se rasseoir en tant qu'administrateur de la Ligue des droits de l'homme qui venait témoigner pour celui qu'elle poursuivait. Donc, on marchait sur la tête. Mais ce qui était intéressant, c'est d'un seul coup qu'on se retrouve avec des gens qui, finalement, étaient des ligues de vertu des deux côtés. Ce qui est assez emblématique du procès moderne ou de la censure moderne. Quand Joel Calder nous raconte les déboires à la fois avec un individu, un député qui poursuit à titre privé pour obscénité, etc., et ensuite avec l'État londonien, ou quand Paul nous parle effectivement du premier livre de poursuivi ou embêté de Mathieu Nanon-Prince et Léonard d'Ours, c'est le ministère de l'Intérieur et c'est pas ce quoi, c'est au moment du musée des horreurs, si je me trompe pas, donc où il y a Guépier, etc., qui sont alignés, Place Beauvau, comme étant véritablement l'infamie de tout ce qu'on peut trouver en librairie et en kiosque aujourd'hui, c'est l'abandon de la censure d'État. Aujourd'hui au profit effectivement d'individus privés et d'associations privées, parce que pour faire un procès il suffit d'être trois, hein, monter une association et se réclamer aujourd'hui croyant, non croyant, contre le racisme, pour le racisme, enfin peu importe, et c'est ça qui est à l'œuvre, c'est ça qui est à l'œuvre devant le théâtre de la ville, c'est pas l'épiscopat. Ils l'aimeraient bien, hein, l'épiscopat, sauf qu'ils savent qu'immédiatement ils ont une pétition signée par POL dans Le Monde ou dans l'IB. Donc c'est la griffe association pour le respect. Alors le G, je ne sais jamais ce que c'est, mais en gros c'est pour le respect, c'est contre le racisme, pardon, et pour le respect de l'identité française. Ça dit, ça porte bien son nom. Donc. Et ils sont trois à peu près aujourd'hui, comme pendant des années on a eu Promouvoir sur le dos, qui est une association qui était maigrettiste, alors comme elle est maigrettiste, évidemment elle est moins active aujourd'hui, etc. Donc cette façon de conjuguer à partir de quelques-uns, voilà, on se met d'accord, on est quatre là, et on décide, au gré de nos lectures ou de ce que l'on voit passer, de s'en prendre à un livre. Et on va forcément, de toute façon, trouver si ce livre n'est pas passé... est passé par les fourches codines d'un avocat ou d'un service juridique et que l'écrivain et l'éditeur ont décidé d'un commun accord de passer outre et de prendre le risque, on va trouver de toute façon forcément quelque chose à gratter et instrumentaliser les lois liberticides, attentatoires à la liberté d'expression, pour faire un procès. On peut le gagner, très souvent, parce que les juges font de la technique. Au procès de Mathieu Lindon, comme au procès de Michel Houellebecq, on était avec des arguments très techniques. Moi, j'ai plaidé qu'il n'y avait plus de délit de blasphème et qu'on s'en prenait à une idéologie et non pas à des croyants. Mais sincèrement, c'était limite. Dans le jugement, je prends, alors là, pas d'opinion dissidente, je prends une leçon de morale religieuse ahurissante pour à la fin me dire que j'ai raison et qu'on gagne. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de me faire une leçon de morale. Et ils sont sur des arguments techniques qui les obligent à me donner raison. Dans le procès contre Mathieu Lindon et son éditeur, ce sont des arguments techniques. Le président Montfort était parti sur des choses très techniques de la diffamation, se gardant bien de se mêler de politique, exprès, se tenant à distance et jouant à l'imbécile aussi, beaucoup plus un imbécile qu'il ne l'est en vérité, sur la question de la fiction, etc. Donc on a affaire à des techniciens qui sont autrement redoutables. On n'est plus dans des grands procès, si je puis me permettre, emblématiques ou idéologiques, où on s'en prend à la littérature pour la littérature, etc. On est sur des petits technocrates de la censure. Et c'est assez redoutable.
Ça, ce sont les moyens, quoi, mais les fins.
Ben, les fins, c'est malgré tout d'obtenir... Alors, effectivement, là aussi, de la même façon que ça s'est privatisé dans les acteurs, ça s'est privatisé dans les demandes. C'est assez rare. On ne demandait pas l'interdiction du livre de Mathieu, non, si ma mémoire est bonne.
Non, il est toujours en circulation.
Voilà, on demandait
de l'argent. Ça m'a coûté relativement cher, mais il est toujours en vente libre.
Moi, pour Houellebecq, on demandait 1 million d'euros. On venait de passer à l'euro, donc ça faisait des chiffres ronds. Pour Skorecki, c'était 600 000 euros. Je ne sais plus. Pour Camino 999, qui était contre l'Opus Dei, on m'avait demandé 800. 100 000. Alors, j'ai des statistiques très variables selon les congrégations religieuses et selon les, etc. Mais en gros, ça tourne entre 500 000 et 1 million, les demandes. Mais même si ça aboutit pas à ces montants-là, mais ça aboutit à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et c'est pas aux éditeurs qui sont ici autour de la table que je vais faire la leçon sur combien ça coûte un livre. Ça coûte donc l'équivalent de 3, 4 fois la fabrication minimum d'un livre. Ça veut dire que plus les frais d'un animal comme moi, plus l'énergie, le temps qu'il faut passer à construire son dossier, à amener des pièces à son avocat, à discuter, à s'inquiéter, eh bien, les ennemis de la littérature savent qu'il s'agit finalement d'un moyen d'action extrêmement efficace. Parce que, en plus, même si l'on gagne son procès, en quelque sorte, contre ces gens-là ne sont condamnés qu'à des peccadilles en termes de frais de procédure. Donc, parce que ce sont des associations, donc sans but lucratif, donc par conséquent, ils s'en tirent avec. Ils peuvent faire le procès sans avocat, s'ils le veulent. Donc, ça coûte 3 fois rien de lancer un scud, et puis accessoirement, ils sont insolvables. Et en attendant, l'éditeur, qu'il gagne ou qu'il perde, a déjà déboursé plusieurs milliers d'euros, c'est-à-dire l'équivalent d'un titre à son catalogue pour l'année suivante. Voilà. Alors, même si avec Michel Houellebecq, ça nous a valu par ailleurs des péripéties diverses et variées. Il a fallu mettre en place un service de sécurité, tout un système. Moi, j'avais Al Jazeera qui campait devant le cabinet et qui filmait Boulevard Raspail, mes bureaux. Ouais, vous voyez, les réunions de préparation. Il faut dire que Michel n'était pas non plus. Avait proposé qu'on aille fêter la victoire au restaurant de la Grande Mosquée. J'ai obtenu gain de cause en lui disant qu'il ne servait pas d'alcool. Il m'a dit ah oui, on va changer de resto. Donc. C'est vrai qu'il y en avait un peu chaud. Des deux côtés. Oui, c'était chaud, mais voilà, on a eu une manifestation des Raéliens pendant l'audience, on a eu une manifestation des Maigrettistes pendant l'audience, en notre soutien, en notre faveur. Les Raéliens, c'était formidable, l'argument c'était on soutient cet écrivain qui s'en prend au monopole des grandes religions. Alors, il dit, on va se calmer, on vous adore, mais vous sortez de la salle et vous nous soutiendrez à l'extérieur. Cette espèce de bazar provoque aussi une agitation médiatique aujourd'hui et par le biais d'Internet qui fait qu'un écrivain rentre en clandestinité à un moment ou à un autre en plus. Non seulement on rappelle le plastiquage de Jérôme Lindon, aujourd'hui, ça veut dire qu'un écrivain qui atteint la notoriété de Michel Houellebecq avec le nombre de traductions, etc., est un écrivain qui ne peut pas nécessairement toujours se montrer publiquement ou trop traîner publiquement. On a reçu un nombre de lettres de menaces, de tordus, totalement ahurissantes. Là, et ce qui est intéressant, c'est de voir, pardonnez-moi, ces dernières semaines, et je terminerai là-dessus avant de me sauver, que à force de voir que les procès ne marchent pas toujours, eh bien, finalement, c'est la politique de l'interruption de la pièce, de la menace, de la présence, du cocktail Molotov, etc., qui sont quand même des signes d'un retour à une forme de censure violente physique extrêmement inquiétant. Parce que il n'y a pas eu de mort pour Charlie Hebdo. C'était au milieu de la nuit et la femme de ménage, heureusement, n'était pas là. Parce qu'en gros, en plus, ils auraient brûlé la seule maghrébine du truc à peu de choses près, enfin, en faisant de l'humour noir, pardonnez-moi, mais c'est à peu près ça. Mais on frôle le drame. Et quand on commence à rentrer dans cette voie et qu'on ne prend plus... La justice républicaine, c'est pas terrible. Mais la violence tout court, ça l'est encore moins.
C'est le plastiquage contemporain, quoi.
C'est le plastiquage contemporain. Oui, c'est le plastiquage contemporain. C'est très facile. Et vous lancez sur Facebook, il faut 4 heures à peu près avant que Facebook déconnecte un site d'appel à la haine contre un écrivain ou un auteur. Donc là, je peux le faire dans une seconde. Hein, colloque blasphématoire à la BPI et on sort tous.
Attends quelques minutes simplement. Voilà.
Donc voilà.
Qu'on évacue la salle.
Il faut que je me sauve, je vais à la 17e correctionnelle, justement, à la chambre de la presse.
Donc, en tout cas, je te remercie.
Merci. Emmanuel,
merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers Paul de nouveau, parce qu'il y a une autre...
Qui n'a pas eu de procès, mais qui en a
après, juste un peu après.
D'accord.
Encore une dernière affaire, et puis après, on passe à Laurence. Donc, il y a une autre affaire liée à un de vos auteurs, et qui, pourtant, cette fois-là, ne publia pas chez vous. C'est celle de la campagne de France de Renaud Camus, qui fut retirée des librairies. Il s'agit de son journal pour l'année 1994, où dans un passage, Camus s'en prenait à l'émission Panorama de France Culture, considérée par lui comme une tribune quasi exclusivement dévolue à la culture juive. Donc vous aviez reçu le manuscrit, donc a été finalement publié chez Fayard, et vous avez décidé de ne pas le publier pour ces passages-là.
Oui, c'est un. Enfin, ça faisait très longtemps que je publiais Renaud Camus et son journal, et les années passant, j'exerçais, je dois le dire, une certaine forme de censure en disant, écoute, si tu mets ça, on aura, toi et moi, des ennuis. Et j'ai pas envie d'avoir ces ennuis-là pour ce genre de choses. Et c'était des petites phrases, des allusions, comme ça, des choses. Et donc, Renaud Camus disait, bah oui, t'as peut-être raison. Et il coupait ses passages, mais il mettait passages coupés à la demande de l'éditeur. C'était un arrangement qu'on avait conclu, comme ça. Et de fait, pour la campagne, les choses montaient un petit peu comme ça. Et pour ce qui est de la campagne de France, je revenais d'un voyage assez lointain, j'étais fatigué. Et je trouve la maison en ébullition. Le livre de Renaud Camus était en fabrication. Je ne l'avais pas encore lu. On l'avait mis tout de suite en fabrication. Je me réservais évidemment de le lire sur épreuve. Et Renaud, il y avait une lettre de Renaud me disant, bah, tu fais comme d'habitude, hein, pour ce qui te paraît, ne pas. Et puis là, j'ai dit non, j'en ai assez, je ne fais plus ça, je ne fais plus ce travail de pré-censure ou de censure. Et je lui ai dit que je préférais ne pas publier le livre, voilà. Et donc, le livre a été publié chez Fayard, et avec les conséquences que l'on sait. Voilà, sur le.
Avec des professions de foi d'éditeurs et autres.
Oui, oui, ça c'est un autre aspect de la question. C'est-à-dire que, oui, le livre a été retiré de la vente, il est ressorti sous une forme expurgée, on va dire. Mais c'est une histoire très, très, très compliquée. Et je ne sais pas si on aura le temps et la possibilité de la développer ici. Toujours est-il que, pour ce qui me concerne, connaissant Renaud Camus, le connaissant bien et sachant que s'il a beaucoup de défauts, il n'a pas celui d'être antisémite et raciste, mais qui s'amusait comme ça, une espèce de jeu un peu pervers, voilà jusqu'où je peux aller, jusqu'où on peut aller dans l'expression de certaines opinions ou la mise en scène, je dirais plutôt, de certaines opinions. J'ai publié le journal qu'il a écrit ensuite sur l'affaire. Voilà.
Oui.
J'ai tenu à avoir ce geste. Fayard ne voulait pas le publier parce que Fayard était trop mis en cause dans le journal en question. Donc voilà. Mais oui, bon, je ne sais pas ce que je peux rajouter à ce que je viens de dire. Sinon, si vous me posez des questions, j'y répondrai bien évidemment.
Oui, bon, on va placer la parole à la salle dans quelques minutes. Simplement, bon, c'était en quelque sorte, enfin, c'était pas de la censure préalable, mais c'était une sorte de façon d'aménager le texte avant publication, donc pour les écrits précédents comme pour celui-ci.
Ça concernait aussi bien des passages de cet ordre, des opinions ou des expressions ou des mises en scène d'opinions avec des questions, etc. Que des opinions sur des auteurs de la maison, par exemple. Je dis, écoute, moi, je peux pas publier un livre dans lequel on dit que X est un mauvais écrivain ou j'étais pas oui. D'accord. Enfin voilà, c'était donc il y avait cette espèce. Mais ce jeu était, j'ai bien conscience aujourd'hui avec le recul que ce jeu était vraiment pervers des deux côtés et j'ai voulu y mettre fin. Voilà.
Entendu. John, toi de ton côté, je crois que pour Burroughs, par exemple, tu as eu aussi l'occasion de faire comme ça, de publier un livre, Dead Figure Talk, qui était en fait une sorte de montage de plusieurs textes de Burroughs où étaient retranchés les passages obscènes.
Je fais ça aussi parce qu'il y avait ce roman de Burroughs où il y avait des passages très inacceptable pour le grand public, lui demander de faire des coupures, de choisir les coupures lui-même. Et puis on a mis ensemble un nouveau roman avec le passage de trois autres. Sauf que le grand journal de Londres, le Times Literary Supplement, qui est le grand journal littéraire, un des rédacteurs est allé à Paris pour trouver les trois textes des trois romans. Et puis, il a écrit une longue attaque d'une page pour attaquer les trois et pour me prévenir de publier ces trois livres. Et il a ignoré totalement le livre que j'ai publié. Mais après ça, il y a des défenseurs de Burroughs qui ont écrit au journal, moi aussi évidemment, j'ai protesté. Et puis il y avait une correspondance qui a duré pendant 14 semaines et que les pages de journal ont doublé pendant ces 14 semaines parce qu'il y avait tellement de correspondants. Il y avait tous les grands écrivains.
Le courrier des lecteurs pendant 14 semaines et le tirage des journaux.
Absolument. Et puis il paraît que le journal est très bien marché pendant tout ce temps. Finalement, après 14 semaines, il était obligé de faire cette correspondance. Mais tous les autres journaux ont parlé aussi de ça. Alors, à cause de ça, c'était possible de publier le Naked Lunch, qui est le plus osé, 2 ans après. Parce que la correspondance pouvait qui avait tellement des bons écrivains, qui étaient pour Burroughs. Quelques imbéciles, évidemment, ont attaqué le livre, mais ce n'étaient pas des gens qu'on pouvait respecter.
Il y a juste un dernier point pour John encore, avant de passer la parole à Laurence Vialet, pour qu'elle interroge, enfin, qu'elle nous donne ses impressions par rapport au débat de cet après-midi. Donc on a bien compris, John, que tu es un éditeur de sensibilité de gauche depuis le début de ta production. Mais je crois que c'est paradoxalement la gauche anglaise qui t'a le plus attaqué à l'issue d'un... Enfin, pour la publication d'un livre où tu mettais en cause des affaires de corruption dans le Labour.
Non, ça veut dire que la gauche britannique laisse les puritaines. Et était pour la plupart contre une grande liberté de l'expression. Et on m'a demandé de me présenter dans la politique, que finalement j'ai fait, mais pas pour la Parti travailliste, j'étais déjà membre du Parti travailliste, mais du Parti du centre, où j'ai dit, bon, j'accepte de faire la politique, mais je ne changerai jamais mes opinions. Hein. Je dirai ce que j'ai à dire, qu'ils ont accepté. En tout cas, je n'ai jamais été élu.
Mais pour ce titre-là, No Shining Armor.
Ah oui. Oui, ça,
ça c'était bien oui. un livre qui t'a occasionné quand même.
Non,
beaucoup.
Ça veut dire qu'après plusieurs années de pouvoir, la partie travailliste a eu du succès dans les grandes villes du Nord, d'Angleterre, c'est tout. Et puis, il y avait une députée qui avait trouvé de la corruption partout, parce que tous les conseillers ont rempli leurs poches avec des nouveaux bâtiments et des contrats. Et il s'était dénoncé. Il était expulsé des partis travaillistes, mais je lui ai convaincu d'écrire un livre. Je lui ai aidé avec le livre. C'est en partie écrit par moi aussi. J'ai sorti le livre, qui a eu une bonne presse, sauf que j'ai eu 36 attaques par des députés travaillistes qui ont été mentionnés dans le livre, qui m'ont fait des procès. J'ai malheureusement j'ai décidé de payer chaque fois, qui m'a presque ruiné. Quand j'ai publié l'autre livre un an après sur le même sujet, là j'ai dit non, s'il veut me faire passer, j'accepte. Et c'est dommage, je n'ai pas fait ça au début. Parce que d'habitude, dans le cours, si on dit ce qu'on pense, c'est accepté, on a une bonne chance de gagner. Alors là, j'ai fait une grande erreur. Non, j'ai aussi été dans tout genre d'autres procès que je n'ai pas encore mentionnés. Je vous dis que je suis très pessimiste de l'avenir parce que je crois que la censure politisée va retourner. Surtout comme la Grande-Bretagne est devenue un pays terroriste, les États-Unis aussi. L'attaque chez Irak, qui était un pays qui n'avait pas d'armes offensives, et contre l'Afghanistan, une guerre qu'ils vont certainement perdre finalement. C'est une catastrophe. Et moi, j'ai très peur d'une troisième guerre mondiale qui peut commencer là-bas.
Bien. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais quand même recueillir l'avis de Laurence Giles. Laurence, je vous présente un peu. Donc, vous avez débuté dans l'édition en tant que directrice de collection à la Musardine. Ne me dites pas non, parce que ça fait la troisième ou quatrième fois qu'on me dit non lors du débat.
Ah non, oui, oui, tout à fait.
Puis au Serpent à Plumes, donc un moment au Rocher, avant de créer les éditions des Ordres. Et puis de publier sous votre propre nom.
Oui.
Alors, quel regard portez-vous sur l'évolution de la profession, notamment en termes de droit, de liberté d'expression, de pression?
Oui, alors c'est vrai que moi, en quelque sorte, je suis un peu illégitime à cette table, puisque je n'ai jamais eu maille à partir avec la justice.
Non, enfin,
mes auteurs.
C'était bien d'avoir votre avis en tant que...
Ici. Toutefois, une des spécificités de mon catalogue, c'est que je publie des auteurs étrangers qui, par contre, dans leur pays d'origine ou ailleurs, ont pu avoir des problèmes avec la censure, notamment l'américaine Cathy Hacker, qui avait connu des problèmes avec l'Afrique du Sud, enfin lors de la publication en Afrique du Sud ou bien en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est vrai que Paul Tchaïkovski-Laurence parlait tout à l'heure d'interdiction qui lui rappelait les méthodes du procureur Pinard. Et c'est vrai que quand j'avais vu le rapport d'interdiction qui avait frappé, en anglais c'est Blood and Guts in High School, moi je l'ai traduit en France par Sang et Stupre au lycée, donc c'est un livre de Cathy Hacker qui date de 1984. Et la lecture de ce rapport d'interdiction m'avait semblé tellement presque exquise de bêtise que je l'avais fait traduire. Puisqu'on reprochait tout autant les expérimentations formelles de Cathy Hacker que effectivement une pseudo atteinte aux bonnes mœurs. Et j'avais noté un extrait du rapport qui disait dans les
80 premières pages du texte, des dessins en pleine page décrivent les organes sexuels masculins et féminins. Dans les pages 40 à 44, on décrit les avortements d'une manière qui bafoue l'éthique sexuelle et d'une façon attentatoire à la dignité humaine. À la page 76, sont relatées de la manière la plus grossière des pratiques sadomasochistes avec un écrivain de 80 ans. La menace envers les jeunes personnes véhiculée par ce livre et qui provient de la retranscription écrite d'actes sexuels pervers et déviants est renforcée par les dessins. Les descriptions crues ne laissent rien à l'imagination du lecteur. Cette menace est accentuée par la description et la banalisation de l'avortement. L'auteur a recours à une variété de styles pour écrire son roman. Elle a recours à des poèmes, à l'écriture persane comme élément stylistique. L'argot trivial de la rue est utilisé. Les éléments stylistiques ne rehaussent pas le niveau du livre pour en faire un objet d'art. Le parler du caniveau, s'il est pittoresque, excitant, reste pourtant banal, trivial et ne suffit pas à conférer la moindre qualité artistique à ce roman. Donc, on est... c'est un exemple parmi d'autres. mais qui me semblait toutefois un peu... toujours délicieux à pouvoir relater dans ce genre de contexte. Et moi, il se trouve que on est aujourd'hui dans une société qui se veut libérale, qui véhicule une imagerie, par exemple, enfin, ce qui concerne les mœurs, une imagerie pornographique, dans la publicité, dans la culture dominante, et dans laquelle la censure est prétendument éradiquée, grosso modo. Et simplement, je m'aperçois qu'on se heurte à des formes de censure beaucoup plus larvées, beaucoup plus quotidiennes dans la diffusion des livres, dans l'écho que peut s'en faire la presse, dans les difficultés et l'impératif de divertissement qui va nous être asséné en permanence par différents acteurs de la chaîne du livre. Et que tout ça frappe aussi d'invisibilité certains livres qui vont heurter la sensibilité des récipiendaires. Mmh.
Donc vous rejoignez l'analyse d'Emmanuel et de John pour quand même une vision assez, assez pas vraiment pessimiste, mais disons moins rose qu'il n'y paraît sur le papier.
Ah ben, il se trouve
que... un relâchement de la pression, mais au contraire une des nouvelles formes de répression.
Oui, un climat un peu de régression ambiant, quoi.
Bien.
C'est-à-dire qu'on me... Pardon, juste une anecdote, on parlait de Lolita tout à l'heure. Souvent, quand on parle de mon catalogue, on me dit, oh là là, mais ce que vous faites, c'est... Alors, on ne dit plus obscène, on ne dit plus ça heurte les bonnes mœurs. On dit c'est hard ou c'est trash, ça passe beaucoup mieux. C'est tout à fait... Par contre, c'est la même volonté de censure. C'est le même propos systématisant. Et on me dit, ah, mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, on ne pourrait plus publier Lolita. Ah bon ? Bien sûr que si. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui font l'époque et non pas l'époque qui fait les hommes, et que les éditeurs sont là pour publier librement. Et que, il me semble que Paul publie, ils sont très nombreux à publier librement sans passer par l'autocensure et sans véhiculer, c'est-à-dire qu'en se gargarisant perpétuellement de l'ordre moral dans lequel on vit, on ne fait que l'encourager et y contribuer. Et ça me semble extrêmement pervers, quoi. Donc ce dont moi je peux modestement témoigner en essayant de publier le plus librement possible.
Bien, je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à la salle.
Bonjour, je voudrais revenir sur le procès, du procès de Jean-Marie Le Pen. En fait, pour savoir dans quelle mesure, dans ce procès, le fait que le livre soit un roman, donc de la fiction, a été pris en compte dans le jugement, dans les débats, de quelle façon ça a joué ?
Ça a toujours été évoqué, effectivement. Ce n'est pas un pamphlet politique, ce n'est pas un document, c'est un roman avec des personnages de fiction, à l'exception, effectivement, de Le Pen, qui est un personnage du livre, qui est un personnage réel, qui, donc, d'une certaine manière, ancre le livre dans le réel immédiat, ce qui a dû troubler, j'imagine, les juges. Mais je pense que c'est, encore une fois, c'est cette confusion qu'il peut y avoir entre l'auteur, de la part des magistrats, entre l'auteur et les personnages, entre l'auteur et le narrateur, qui a déterminé la condamnation. Et le fait que ce soit un roman n'intervient pas. C'est comme dans les affaires d'atteinte à la vie privée, par exemple. Quand on met roman sur un livre, ça ne protège en rien l'auteur et l'éditeur des attaques légitimes ou illégitimes, ça c'est encore une autre affaire, que peuvent lancer des personnes qui se sentent mises en cause.
De vrai nom.
Le roman ne protège de rien, voilà.
Écoutez, je vous remercie tous d'avoir. Enfin, je remercie déjà les participants à ce débat. Je vous remercie d'être venus assister à cette table ronde.